Il est possible qu'Adèle se soit suicidée, dit Guillaume en fixant ce visage, mais certes pas celui-ci. Et on ne peut penser qu'il se soit hissé par hasard jusqu'au bord de la jarre et qu'il soit tombé par erreur. L'abbé s'approcha de lui. Frère Guillaume, comme vous le voyez, il se passe quelque chose dans l'abbaye, quelque chose qui requiert toute votre sagesse. Mais je vous en conjure, faites vite.
Était-il présent dans le cœur durant l'office ? Demanda Guillaume en indiquant le cadavre.
Non, dit l'abbé. J'avais remarqué que sa stalle était vide.
Aucun autre n'était absent ?
Je n'ai pas l'impression, je n'ai rien remarqué d'autre.
Guillaume hésita avant de formuler la nouvelle question, et il la posa dans un murmure, veillant à ce que les autres n'entendissent point.
Béranger était-il à sa place ?
L'abbé le regarda avec une admiration mêlée d'inquiétude, comme pour signifier qu'il était frappé de voir mon maître nourrir un soupçon que lui-même avait un instant nourri, mais pour de plus compréhensibles raisons. Puis, il dit rapidement
« Il y était, sa place se trouve au premier rang presque à ma droite. »
« Naturellement, dit Guillaume, tout ceci ne signifie rien. Je ne crois pas que pour entrer dans le cœur, quelqu'un soit passé derrière l'abside, et donc le cadavre pouvait déjà se trouver là depuis plusieurs heures, au moins à partir du moment où tout le monde s'en était allé dormir. »
« Certes, les premiers servants se lèvent avec l'aube, et c'est pour cela qu'ils ne l'ont découvert qu'à présent. »
Guillaume se pencha sur le cadavre, comme s'il était rompu à manier les corps morts. Il trempa le linge abandonné à côté de la seille et essuya mieux le visage de Vénantius. Pendant ce temps, les autres moines s'attroupaient épouvantés, formant un cercle criard auquel l'abbé imposait le silence. Parmi eux, Séverin se fraya un chemin à qui était confié le soin des corps de l'abbaye et se pencha près de mon maître. Moi, pour entendre leur dialogue et pour aider Guillaume qui avait besoin d'un nouveau linge propre imbibé d'eau, je m'unis à eux, surmontant ma terreur et mon dégoût.
« As-tu jamais vu un noyé ? » demanda Guillaume.
« Plus d'une fois, dit Séverin. Et si je devine ce que tu veux dire par là, ils n'ont pas ce visage, leurs traits sont gonflés. »
Alors l'homme était déjà mort quand on l'a flanqué dans la jarre.
Pourquoi aurait-on dû faire cela ?
Pourquoi aurait-on dû le tuer ? Nous sommes en présence de l'œuvre d'un esprit altéré. Mais pour l'heure, il faut voir si le corps présente des blessures ou des contusions. Je propose de le transporter dans les balnéas, de le déshabiller, le laver et l'examiner. Je te rejoins tout de suite. »
Et tandis que Séverin, après licence de l'abbé, faisait transporter le corps par les porchers, mon maître demanda qu'on fît rentrer les moines dans le cœur en suivant exactement le même chemin qu'ils avaient pris pour venir, et que les servants se retirassent d'eux-mêmes afin que l'esplanade restât déserte. L'abbé ne lui demanda pas le pourquoi de ce désir et le satisfit. Nous demeurâmes ainsi seuls, à côté de la jarre d'où le sang avait débordé pendant la macabre opération de récupération, avec tout autour la neige rouge, fondue à plusieurs endroits sous l'eau répandue, et une grande plaque sombre où le cadavre avait été allongé.
« Un bel embrouillamini, dit Guillaume, en montrant le jeu complexe des traces laissées par les moines affolés et par les servants.
« La neige, cher Atso, est un admirable parchemin sur lequel le corps des hommes laisse des écritures fort lisibles. Mais ça, c'est un palimpseste mal gratté, et peut-être n'y lirons-nous rien d'intéressant. D'ici à l'église, ça a été une grande course de moines empressés. D'ici à la soue et aux étables sont venus des servants par bandes entières. L'unique espace intact est celui qui va des soues à l'édifice. Voyons si nous trouvons quelque chose d'intéressant.
« Mais que voudriez-vous trouver ? » demandai-je.
« S'il ne s'est pas jeté tout seul dans le récipient, quelqu'un l'y aura porté, et j'imagine déjà mort. Qui transporte le corps d'un autre laisse des traces profondes dans la neige. Et alors, cherche si tu trouves par là, alentour, des traces qui te semblent différentes de celles laissées par ces moines vociférateurs qui nous ont gâché notre parchemin. »
Ainsi fîmes-nous. Et je dis sans embâche que ce fut moi, Dieu me sauve de la vanité, qui découvris quelque chose entre le récipient et l'édifice. C'étaient des empreintes de pieds humains, assez profondes, dans une zone où personne n'était encore passé, et comme remarqua aussitôt mon maître, plus légères que celles laissées par les moines et par les servants, signe que la neige les avait en partie comblées, et qu'elles avaient donc été laissées depuis un certain temps. Mais ce qui nous sembla le plus digne d'intérêt, c'était qu'avec ces empreintes s'entremêlait une trace plus continue, comme d'une chose traînée par celui qui avait laissé la marque de ses pas. En somme,
une traînée qui allait de la jarre à la porte du réfectoire, sur le côté de l'édifice, qui se trouvait entre la tour méridionale et la tour orientale.
Réfectoire, scriptorium, bibliothèque, dit Guillaume.
Une fois de plus, la bibliothèque.
Vénantius est mort dans l'édifice, et plus probablement dans la bibliothèque.
Et pourquoi précisément dans la bibliothèque ?
J'essaie de me mettre dans la peau de l'assassin. Si Vénantius était mort, tué, dans le réfectoire, dans la cuisine ou dans le scriptorium, pourquoi ne pas l'abandonner là ?
Mais s'il est mort dans la bibliothèque, il fallait le transporter ailleurs, soit parce qu'on ne l'aurait jamais découvert dans la bibliothèque, et l'intérêt de l'assassin était peut-être justement qu'il fût découvert, soit parce que l'assassin ne veut probablement pas que l'attention se concentre sur la bibliothèque.
Et pourquoi l'assassin pouvait-il avoir intérêt qu'il fût découvert ?
Je ne sais pas, j'émets des hypothèses.
Qui te dit que l'assassin a tué Vénantius parce qu'il haïssait Vénantius ?
Il pourrait l'avoir tué de préférence à n'importe quel autre, pour laisser un signe, pour signifier quelque chose d'autre.
Omnis mundi creatura, quasi liber et scriptura, murmurai-je.
Mais de quel signe s'agirait-il ?
Voilà ce que j'ignore. N'oublions pourtant pas qu'il est des signes qui paraissent tels et qui sont au contraire dénués de sens, comme blitiri ou boubabaf.
Il serait atroce, dis-je, de tuer un homme pour dire boubabaf.
Il serait atroce, commenta Guillaume, de tuer un homme, fût-ce pour dire credo in umnum deum.
À ce moment-là, nous fûmes rejoints par Séverin. Le cadavre avait été lavé et examiné avec soin. Aucune blessure, aucune contusion à la tête. Mort comme par enchantement.
Comme par châtiment divin, demanda Guillaume.
Peut-être, dit Séverin.
Ou par empoisonnement.
Séverin hésita.
Peut-être aussi.
Tu as des poisons dans le laboratoire, demanda Guillaume, tandis que nous nous dirigions vers l'hôpital.
Aussi, oui. Mais cela dépend de ce que tu entends par poison.
Il y a des substances qui, à petite dose, sont salutaires, et à dose excessive, procurent la mort. Comme tout bon herboriste, j'en conserve et en use avec discernement. Dans mon jardin, je cultive par exemple de la valériane. Quelques gouttes dans une infusion d'autres herbes calment le cœur qui bat de façon désordonnée. Une dose exagérée provoque torpeur et mort.
Et tu n'as pas remarqué sur le cadavre les signes d'un poison particulier ?
Aucun.
Mais de nombreux poisons ne laissent point de traces.
Nous étions arrivés à l'hôpital. Le corps de Vénantius, lavé dans les balnéas, avait été transporté ici et gisait sur la grande table dans le laboratoire de Séverin. Alambics et autres instruments de verre et de terre me firent songer, mais je n'en avais, par des récits qu'une connaissance indirecte, à la boutique d'un alchimiste. Sur un long rayonnage qui courait contre le mur extérieur, s'étendait une abondante série de fioles, brocs, vases, pleins de substances de différentes couleurs.
« Une belle collection de simples, dit Guillaume. Tous produits de votre jardin ?»«
Non, dit Séverin. Nombre de ces substances rares et qui ne poussent pas dans ces régions m'ont été rapportées au cours des ans par des moines qui provenaient de toutes les parties du monde. J'ai des choses très précieuses et introuvables au milieu de substances qu'il est aisé d'obtenir à partir de la végétation de ces lieux. Tu vois, Agati Pilé, il provient du Cathay, et je lus d'un savant arabe. Aloès Socotrin, il vient des Indes, excellent cicatrisant. Ariente vivant, il ressuscite les morts, ou pour mieux dire, réveille ceux qui ont perdu l'essence. Arsenaco, très dangereux, poison mortel pour qui l'avale. Bourrache, plante bonne pour les poumons malades. Bétoine, bonne pour les fractures du crâne. Mastic, réfrène les flux pulmonaires et les catarrhes gênants.
Myrrhe, sel des mages, demandai-je.
Sel des mages, mais ici bonne pour prévenir les avortements, cueillie sur un arbre qui s'appelle Balsamodendron Myrrha.
Et ça, c'est de la moumilla, d'une grande rareté, produite à partir de la décomposition des cadavres momifiés. Elle sert à préparer de nombreux médicaments presque miraculeux.
Mandragola officinalis, bonne pour le sommeil,
et pour susciter le désir de la chair, commenta mon maître.
Dit-on, mais ici on ne l'utilise pas dans un tel sens, comme vous pouvez l'imaginer, sourit Séverin.
Et regardez ça, dit-il en prenant un flacon.
Tutti, miraculeuse pour les yeux.
« Et qu'est-ce que cela ?» demanda vivement Guillaume en touchant une pierre qui se trouvait sur une étagère. « Cette pierre, on me l'a donnée il y a bien longtemps. On l'appelle l'opris amatiti ou lapis hématitis. Il paraît qu'elle possède différentes vertus thérapeutiques, mais je n'ai pas encore découvert laquelle. Tu la connais ?»«
Oui, » dit Guillaume, « mais pas comme médicament. »
Il tira de sa coule un canif, manié avec une extrême délicatesse, l'amena à une très courte distance de la pierre. Je vis que la lame accomplissait un brusque mouvement comme si Guillaume avait bougé le poignet, qu'il tenait au contraire tout à fait immobile. Et la lame adhéra à la pierre avec un léger bruit de métal. « Tu vois, me dit Guillaume, elle attire le fer. »« Et à quoi sert-elle ? » demandai-je. « À différentes choses, que je te dirai. Mais pour l'instant, je voudrais savoir, Séverin, s'il n'y a rien ici qui pourrait tuer un homme. » Séverin réfléchit un moment. Trop longtemps, dirais-je, vu la limpidité de sa réponse. « Beaucoup de choses, je te l'ai dit. Il en faut bien peu pour passer du poison au médicament. À l'un comme à l'autre, les Grecs donnaient le nom de pharmacon. Et n'y a-t-il rien qu'on ait soustrait récemment ?» Séverin réfléchit encore, puis, comme pesant ses mots, « Rien récemment. » « Et par le passé ?»
« Qui sait ? Je ne me rappelle pas. Je suis dans cette abbaye depuis 30 ans, et à l'hôpital depuis 25. »
« Trop pour une mémoire humaine, » admit Guillaume. Puis, tout à trac, « Nous parlions hier de plantes qui peuvent donner des visions. Ce sont lesquelles ?» Séverin manifesta par ses gestes et par l'expression de son visage le vif désir d'éviter ce sujet. « Il faut que j'y réfléchisse, tu sais, j'ai tant de substances miraculeuses ici. Mais parlons plutôt de Vénantius. Qu'en dis-tu ? »
« Il faut que j'y réfléchisse, » répondit Guillaume.